Sur les ondes de CIBL 101.5 Montréal, vous écoutez Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Toutes nos émissions sont disponibles en balado via laplumedefeu.com.
Aube, épisode X.
Dans ce Xème épisode, Aube vous propose une introduction à Aube.
Petit retour en arrière pour les nouveaux auditeurs et consolidation des acquis pour les anciens.
Car qui dit nouvelle saison dit aussi nouveaux auditeurs et nouvel horaire.
Ben oui, après 12 épisodes, 189 capsules diffusées sur SoundCloud, on s'est dit qu'une petite courte pointe, ça serait à propos pour vous présenter notre émission.
Bref, nous osons espérer que vous allez vous précipiter sur votre ordinateur plus tout équipé
pour télécharger les 12 premiers épisodes, si la curiosité vous a piqué.
Au sommaire...
Simplement le bonheur, tiré de l'épisode 2 sur la nécessité.
Une entrevue sur la fête des voisins, tiré de l'épisode 3 sur les liens interpersonnels.
La capsule Petit geste, grande révolution, tiré de l'épisode 7 sur les objets.
Un réseau théâtre, une discussion dans un commerce entre un client et son fruitier.
Un extrait du film 99 francs avec Jean Dujardin sur l'exposition à la publicité.
L'utopie de Télème, c'est notre chronique utopie tirée de l'épisode 6 sur les loisirs.
Une capsule tragicomique d'Annick Denioux du nom de Bienvenue chez Coco.
Et le petit village sans âge, une très jolie création de Caroline Legault tirée de l'épisode 4 sur les voyages.
Un peu plus tard, on vous parlera de vous. Oui, toi, qui nous écoutes puis qui a l'impression d'être seul à penser différemment. Nous, on a un texte sur les créatifs culturels. Vous allez réaliser que vous êtes pas mal plus que vous pensez.
Laissez entrer le vent, une tranche de vie qui traite de l'espoir que nous portons à nos enfants et qui parfois décide tout autrement de leur propre devenir.
Et pour l'instant, laissez-moi ouvrir cet épisode avec un monologue comme je fais à chaque début d'émission. Celui-là est tiré de l'épisode sur le jeu et il s'appelle « Le pays imaginaire ».
On te propose plus que jamais de te rassembler autour de valeurs humaines, écologiques et collectives, de prendre action simplement par une prise de conscience.
Votre mot-clé, courte pointe. Au pays imaginaire, tout le monde peut jouer à ce qu'il veut, quand il veut. Par exemple, moi aujourd'hui, je joue à faire de la radio. Ici, c'est normal de jouer. Tout le monde joue tout le temps. Pas besoin d'avoir fini ses devoirs. Les adultes jouent avec les enfants avec d'autres enfants, et surtout, les adultes jouent avec d'autres adultes. Bref, jouer, c'est tout ce qu'il y a à faire. Il suffit d'une belle journée ensoleillée pour qu'on se retrouve tous au parc. À jouer aux échecs, à la pétanque, au frisbee, grimper dans les arbres, monter sur des slacklines, simplement s'écraser dans le gazon à profiter du soleil. Les jours de grisaille, les plus téméraires vont danser sous la pluie. Les plus frileux jouent dans les couvertes, en équipe de deux. Ou plus, il y a toujours de la place pour un joueur de plus au pays imaginaire. Il y a aussi beaucoup de monde qui joue à travailler. Les enfants vendent de la limonade, les adultes travaillent sur des projets un peu plus complexes, mais stimulants. Moi, j'ai une amie, par exemple, qui s'occupe de la protection des milieux marins. Elle va plonger dans les îles pour s'assurer que les barrières de corail sont en bonne santé. Tu peux jouer à cuisiner, prendre ton vélo puis aller jouer dans le trafic pour aller travailler. Jouer à servir des clients ou jouer à construire des maisons. Même la politique est un jeu. Les bleus contre les rouges. Ils prennent ça très au sérieux. Ça demande beaucoup de préparation, il faut lire des tonnes de documents pour être prêt. Jouer, ça implique beaucoup de responsabilités. Faut faire attention. Quand je dis jouer, c'est pas rien faire. Ici, jouer, c'est pas une perte de temps. C'est une activité valorisée. Tout le monde accepte ses responsabilités pour que le jeu fonctionne comme il faut. Au fond, tout est un jeu au pays imaginaire. Suffit d'avoir la bonne attitude. Plutôt que de voir le jeu comme une catégorie d'activité, ici, le jeu est une façon d'aborder le monde. Et puisque tout est un jeu, tu peux jouer le rôle que tu veux. Tu peux même être toi-même.
65% des gens passent leurs heures de prétendu loisir à faire des choses qu'ils n'aiment pas. Simplement, le bonheur. Depuis quelques années, les gens se préoccupent de plus en plus de leur santé. Alimentation, activité physique, développement personnel. Par ailleurs, on rencontre un nombre accru de maladies liées au stress. 80% des maux occidentaux sont causés par le stress. Les médecines, tant traditionnelles qu'alternatives, sont débordées. Et la santé là-dedans? Vivre plus simplement amènerait sans aucun doute la majorité de la population à avoir une meilleure relation avec la vie. Le concept de simplicité volontaire n'est pas nouveau, mais reste méconnu. On la compare souvent à un mouvement radical qui stipulerait tout simplement de vivre de rien, ce qui n'est pas le cas. La simplicité volontaire apporte une solution intelligente à bon nombre de vies malheureuses ou malades. Une vie plus simple équivaut à travailler moins et conséquemment à plus de temps passé avec ceux qu'on aime, à faire des choses qui nous passionnent. Vivre simplement implique évidemment un effort de conscientisation. Il importe tout d'abord de prendre conscience de ce qui bouffe notre temps, mais surtout notre énergie. Mais qu'est-ce qui bouffe notre énergie? Les comptes à payer, le magasinage de Noël, les embouteillages, faire l'épicerie, le ménage, le patron pas facile, les clients chialeux, pas aimer son travail, passer son temps au travail, chercher du travail, bref, la publicité, les nouvelles de 17 heures, se mettre en colère, se faire du souci, avoir peur, avoir des allergies à cause du système d'aération déficient du bureau, avoir mal au dos depuis 3 ans, parce qu'on est assis 40 heures par semaine au même endroit. La première étape, c'est de faire la liste de ce qui bouffe votre énergie. Faites aussi une liste de ce que vous feriez si vous aviez plus de temps. Passer du temps seul, faire de l'artisanat, de la danse, du yoga, cuisiner, écrire, peindre, lire. Là où la simplicité volontaire devient intéressante, c'est quand les rapports avec l'énergie changent. Le travail, c'est de l'énergie. Souvent, beaucoup d'énergie. Surtout quand on n'aime pas ce qu'on en fait. Il suffit de se demander pourquoi on travaille autant. Pour payer la maison, pour se vêtir, pour s'offrir des sorties, pour payer les comptes, la voiture. On a sans cesse l'impression de ne pas avoir notre argent. Il y a toujours quelque chose à payer. A-t-on réellement besoin d'une aussi grosse maison, d'une voiture, de payer une fortune pour s'habiller? Quand on commence à se demander si on a vraiment besoin de tout ça, on en arrive souvent à une réponse négative. La sollicitation publicitaire nous incite sans arrêt à consommer des biens et des services dont on pourrait fort bien se passer. Pensez aux innombrables gadgets qui ne servent qu'une fois ou à toutes les sorties qui ne font que vous fatiguer davantage. En ayant plus de temps, on pourrait dépenser moins d'argent pour faire soi-même ce que l'on paie. Je fais allusion ici au repas, au ménage, aux cadeaux, aux coupes de cheveux, aux vêtements, aux réparations de toutes sortes. Au gré de mes lectures, j'ai récolté quelques trucs que voici. En premier lieu, on pourrait se débarrasser des choses que l'on garde inutilement pour créer de l'espace. Et qui sait, peut-être déménager dans plus petit et moins cher. En deuxième lieu, simplifier dans le matériel de maison. Par exemple, le couvert, la literie. On pourrait aussi fréquenter une bibliothèque. Quand on magasine, attendre 30 jours pour voir si on veut vraiment l'objet qui nous tentait. On pourrait aussi éliminer les sorties qui nous grugent du temps et de l'énergie. On pourrait aussi réévaluer les tâches ménagères sous un nouvel angle. Le plancher a-t-il vraiment besoin d'être balayé et lavé? La literie a-t-elle besoin d'être lessivée chaque semaine? Est-ce un acte barbare que de mettre le même pantalon ou chandail deux fois de suite? Faire un budget pour voir où va votre argent, c'est parfois surprenant. Cuisiner des recettes plus rapides, plus faciles. Arrêter de regarder la télé. Cesser les mondanités, lire les journaux et autres revues à potins. Fréquenter les friperies. Réutiliser le plus possible. Dans le livre « Votre vie ou votre argent », propose quelques exercices très pertinents pour changer notre relation avec l'argent. Faire le bilan de tout l'argent que vous avez fait au cours de votre vie à partir de l'enfance et évaluer ce que vous avez économisé et acquis, le montant que vous auriez si vous vendiez tout. Évaluez ce que votre emploi vous coûte vraiment en temps et en argent et calculez votre salaire horaire réel, que ce soit le coût du transport, le resto, l'habillement, le maquillage. Avoir envie de se simplifier la vie est une chose. Arriver à le faire demande de la vigilance, beaucoup d'efforts et de l'imagination. Freiner le rythme de vie ne se fait pas en une semaine. Il s'agit ici de changer des comportements de consommation que l'on a souvent depuis des nombreuses années. Changer notre perception du travail aussi. Contrairement à ce que l'on peut penser, il est tout à fait possible d'avoir un emploi plus simple. Il faut se donner le temps de réfléchir à ce que l'on a envie de faire et d'effectuer des recherches dans ce sens. La simplicité volontaire exige un effort, mais la liberté que l'on en retire est incontestable. Moins d'argent de dépenser, moins de besoins luxueux et inutiles, moins d'heures à travailler, plus de temps pour nous-mêmes, pour ceux qu'on aime. Et surtout, plus de temps pour la vie.
À Montréal, il suffit souvent d'un détour pour tomber sur quelqu'un d'extraordinaire.
Salut, enchanté, moi c'est Guillaume.
Salut, moi c'est Marie.
Salut Marie. Marie, on se croise comme ça dans ta ruelle, il y a de l'activité autour de nous. Est-ce que c'est toujours comme ça chez vous?
Pas mal souvent, surtout l'été évidemment, mais c'est sûr que déjà dans la ruelle, il y a beaucoup d'enfants. Fait que ça fait vraiment une vie de quartier intéressante. Puis ça recrée des liens, ça refait sortir les enfants dehors. Puis c'est vrai que ça fait de l'action, puis qu'il y a toujours beaucoup de monde à la maison, puis autour, puis ça se déplace. Puis...
Présentement, c'est un peu ça qui se passe dans ta cour. Là. On prend le temps de jaser un peu, mais il y a des gens qui sont en train de travailler sur leur propre boîte à savon.
Oui, c'est exactement ça. Je sais pas trop comment va finir cette histoire-là, mais écoute, ils se lancent.
Mais qu'est-ce qu'ils font exactement?
Ah ben ils ont pris une vieille voiture en plastique. Mon père était ébéniste, donc il y a des outils, il y a du bois, tout ça. Puis là, ils ont décidé de faire une boîte à savon. Je sais pas trop où est-ce qu'ils s'en vont. Je sais pas où est-ce qu'ils savent où est-ce qu'ils s'en vont, tout aussi. Mais, tu sais, il y a deux voisins à deux maisons là. Il y a un petit garçon qui habite un peu plus loin. Il y a une maman qui les aide là. Tu sais, c'est très...
De plus en plus dans les ruelles de Montréal et dans toutes les autres villes du monde, on voit les gens se rassembler pour se créer des milieux de vie plus humains.
Tu organises des choses aussi chez vous. La dernière fois qu'on s'est croisés, il y avait une soirée chez toi aussi. Donc, il y a toujours quelque chose qui se passe dans la ruelle ou sur la terrasse. C'est important pour toi?
Oui, c'est vrai que pour nous, la ruelle, c'est devenu un milieu de vie, quelque part. Un milieu de vie pour les enfants, un milieu de vie pour les adultes. Quand on organise la fête des voisins durant l'été, on enlève les clôtures, on fait une scène avec le balcon, puis on met nos chaises, notre barbecue dehors, puis tu sais, on occupe l'espace. Je pense qu'il faut vraiment occuper l'espace urbain. Puis on invite tout le monde, justement, parce qu'il faut que les gens se parlent. On est dans une société quelque part aujourd'hui où les gens, ils sont un peu en silo.
La fête des voisins, également nommée Immeuble en fête, est une fête à l'origine française qui se donne pour but de permettre à des voisins de se rencontrer de façon conviviale afin de rompre l'isolement et de créer un sentiment d'appartenance au quartier.
Puis, présentement, ça va bien, le voisinage, tout le monde. C'est sûr que des fois, il y a des conflits, non?
Oui, des fois, c'est sûr. L'autre jour, les enfants sont venus et ils ont dit « Oh, la dame, on a envoyé son ballon dans la cour, puis elle était vraiment pas contente, puis elle était vraiment fâchée. » Puis, tu sais, c'est vrai que des fois, tu sais, on est sûr, c'est sûr qu'on est les gens, les musiciens de la ruelle, là, tu sais, puis on jam, puis ça, puis juste, ça doit probablement déranger certains, là, mais ils se manifestent pas trop, ça va.
Est-ce que tu penses qu'à l'inverse, il y a des gens aussi qui ça a un impact positif dans leur vie, de savoir que ça existe?
Je pense que oui. Il y a clairement des gens, le voisin d'en haut, il a déménagé il y a 2 mois, puis il dit que ça a changé sa vie, là. Tu sais, il dit, j'étais dans un quartier où on parlait pas à personne, ça, là, je rentre le soir, on descend, on prend un petit verre sur le balcon, on décompresse la journée, on jase avec les autres. Fait que c'est sûr qu'il y en a que ça dérange. Il y en a... Des fois, j'ai l'impression qu'il y en a que le bonheur, ça dérange.
En fait. Ah ouais, hein?
Ouais.
Puis toi, ta solution pour ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait?
Écoute, il faut laisser aller.
Tu penses qu'on peut les contaminer aussi, ces gens-là?
Ah, il faut toujours essayer. Okay. Faut toujours les inviter quand même. Faut toujours continuer à les inviter.
Excellent. Pour toi, comme jeune adulte, ça a quoi comme impact de pouvoir rencontrer tes voisins comme ça? T'es en plus des enfants, évidemment.
Ben c'est le voisinage, mais c'est aussi l'entraide, quelque part. Tu sais, Madame Beaulieu, on l'a vu vieillir à côté, son mari est décédé. Mon fils, l'autre jour, il est allé l'aider à racler ses feuilles. Tu sais, elle était super contente parce qu'il donne un petit peu de sous. Puis, tu sais, je pense qu'il faut... on est tellement de monde. Je pense que, tu sais, si on se parle pas, puis qu'on regarde... On regarde par terre. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'on a une Européenne qui est là aujourd'hui depuis 24 heures. Puis elle est drôle parce qu'elle dit les gens se parlent, les gens se regardent, les gens, tu sais. Je pense que déjà d'instinct, les Québécois, on a un peu ça. À Montréal, peut-être un peu moins. Mais je pense qu'il faut le garder, tu sais, on a une espèce de petit village ici, puis...
C'est quand même le fun. Est-ce que c'est toi la chef du petit village? Est-ce que tu penses que... Non, mais dans le sens que... Est-ce que tu penses que ça prend quelqu'un qui prend la responsabilité de le faire ou ça vient naturellement?
Je pense que oui. Il y a toujours des gens qui sont un peu plus rassembleurs dans, de nature, là. Tu sais, c'est sûr que moi, on me l'a inculqué petite, mais tu sais, c'est sûr que je suis pas... Tu sais, la preuve, c'est que ça se fait pas partout dans toutes les ruelles, tu sais, puis ça se fait pas non plus dans toutes les dans tout le voisinage autour. Donc, tu sais, puis là, en avant de la maison, on a planté des légumes, puis c'est vraiment écrit « nourriture à partager », tu sais, puis moi, je pense qu'il faut réinventer les liens aujourd'hui, en 2015.
Oh, c'est une belle phrase. J'espère qu'il y a plein de belles phrases comme ça.
Ah... À chaque année, le premier vendredi de juin se tient la Fête des voisins, un événement qui rassemble plus de 200 000 personnes dans plus de 3 800 fêtes partout à travers le Québec. Bref, c'est une très bonne occasion pour tisser des liens entre nous et transformer notre vie de quartier.
Mon voisin d'en haut, c'est un Rastaman. Ils m'ont invité chez eux, fin des pluchettes de bananes. Il y avait ses chums, sa femme, leur soeur puis le frère. Du bien beau monde à voir. J'ai bu du rhum, j'ai presque tombé d'un pommeau, yo 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 yo.
Sommets politiques internationaux aux effets peu significatifs, querelles concernant la pertinence des recherches sur le réchauffement climatique, bref, la liste des déclarations d'intention laissées sans suite est assez longue. Difficile de trouver un consensus à une échelle macro. Et si on agissait aujourd'hui, maintenant et sans attendre une volonté extérieure? Et si on prenait le taureau par les cornes? Les petits gestes du quotidien peuvent faire toute une différence s'ils sont adoptés par la masse. L'important, c'est ça, agir. Car prêcher ne suffit pas. Alors pourquoi ne pas devenir le modèle que l'on attend de tous nos vœux en repensant nos habitudes? Donc voici une petite liste des changements qui, répartis à plus large échelle, peuvent faire toute la différence. Et passez le message autour de vous, devenez donc l'exemple. À la maison tout d'abord. Moins de déchets, ça suppose une modification de ses habitudes. Mais c'est totalement faisable. Allez lire le livre Zéro déchet, source d'inspiration, alors que la famille qui a repensé sa consommation n'a rien d'un groupe de hippies ou de mormons. De la taille de leur maison aux vêtements réellement utiles, en passant par le papier toilette, les achats d'épicerie et les transports, ils ont tout réexaminé. Et ils en sortent plus heureux, car moins de temps dans les transports, c'est plus de temps à échanger. Plusieurs places à Montréal permettent d'acheter en vrac, les épiceries de produits naturels ou même les marchés comme Atwater et Jean Talon. Amenez votre boîte en plastique, vos sacs et vous remplirez vos bocaux une fois que vous rentrez chez vous. Idem pour les fruits et les légumes. Et achetez local les amis car les paniers bio, avec les frais directement versés aux producteurs, vous assurent pour 8 mois par an d'avoir des légumes de première fraîcheur et que vous irez chercher avec votre joli sac en jute. Au Québec, la plupart des fermes biologiques ont une production à petite échelle qui respecte la biodiversité et ce que la terre peut prendre et offrir en retour. En plus, ça goûte vraiment meilleur. Consultez d'ailleurs le site internet d'Équiterre pour connaître les fermes participantes. parfois on part faire ses achats après le travail. Alors traînez toujours avec vous et partout plusieurs sacs de jute ou de plastique qui pourront vous servir à n'importe quel moment. Les sacs Ziploc sont très utiles, mais ne les jetez pas. En 30 secondes, montre en main, promis, rincez-les et faites-les sécher pour une réutilisation ultérieure. On ne souligne jamais assez l'impact de tous les sacs plastiques qui sont rejetés dans la nature. Lisez aussi les étiquettes et identifiez les labels qui sont économes au niveau énergétique ou qui certifient la production biologique, le logo Bio-Québec notamment, et préférez les produits rechargeables et pensez à long terme surtout. Le produit le moins cher risque de se briser rapidement et de participer à l'obsolescence programmée. Le nombre d'objets que nous jonglons dans notre maison est assez important. Qu'il s'agisse des récipients, les yaourts, les céréales, les sacs de pâtes, etc. ou des objets brisés, des imprimantes ou machines à laver. Auparavant, nos parents réparaient tout et nous en avons perdu l'habitude. Nous jetons sans aucun remords, alors que nous pourrions réparer. Et oui, l'engagement, ça prend du temps. Et si vous n'en avez pas, faites fonctionner l'artisanat de votre quartier. Amenez vos chaussures chez le cordonnier, amenez vos vêtements chez une couturière si vous ne savez pas comment faire des retouches, ou mettez-vous à la couture. En plus de vous faire économiser de l'argent et d'éviter la consommation pour des produits de basse qualité, vous ferez fonctionner le commerce local et les artisans au savoir-faire irremplaçable. Et si on n'achète pas, on ne jette pas. Renseignez-vous auprès de votre éco-quartier pour savoir où déposer vos pelures de fruits et légumes, coquilles d'œufs, bref, tout ce qui peut être composté. Fabriquez vos propres produits de nettoyage ou d'hygiène. Internet regorge de bonnes idées et la bibliothèque recèle de belles trouvailles sur les mille et une vertus du vinaigre ou du bicarbonate de soude. La plupart des produits nettoyants, y compris les savons pour le corps, qui se vendent sur le marché, sont souvent composés de produits chimiques et polluent l'eau en plus d'être irritants pour la peau. Alors préférez-leur des produits naturels et biodégradables. Au travail maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, tout d'abord, évitez le styromousse de vos tasses à café et amenez votre propre tasse. Pour le recyclage de papier maintenant, on jette énormément de papier, surtout dans les bureaux. Le recyclage n'est que le dernier ressort qui nous donne bonne conscience tout en favorisant le gaspillage. Achetez du papier recyclé, y pensez à trois fois avant d'imprimer des documents, proposer d'acheter des tablettes électroniques à votre employeur plutôt que de trimballer des classeurs remplis de documents sont différentes options envisageables au travail. Le transport maintenant. L'automobile, comme vous le savez, est très polluante. Le vélo, la marche, le taxi, le train, le transport en commun ou communauté sont autant de moyens de déplacement qui coûtent beaucoup moins cher que de posséder une voiture et qui pourraient même favoriser un autre type de contact. Idem pour le covoiturage de travail. Vous êtes plusieurs à vous rendre au même endroit ? Pourquoi ne pas faire la route ensemble ? Et si vous êtes courageux et que vous cherchez un moyen de vous mettre au sport qui vous motive, vous pourrez considérer vos jambes comme moyen de transport. Joanne Roch l'a fait de manière progressive et maintenant, il court des ultramarathons. En repensant notre consommation, on a un impact sur la production à grande échelle. Même si vous avez l'impression que c'est une goutte d'eau dans l'océan, vous ferez quand même partie d'un mouvement qui prend conscience de ses actes quotidiens. Les alternatives d'habitat, de consommation, de travail ou de voyage que l'on a pu voir jusqu'à date, on le vend en poupe. Alors engagez-vous et inventez vos propres règles. Ce ne sont que des exemples, il y a tout un éventail de gestes comme ceux-ci qui peuvent faire partie de notre vie sans effort supplémentaire. Et il ne s'agit que de s'ouvrir aux alternatives et à d'autres façons de penser et d'agir. Pensez avant de consommer et avant d'acheter, et devenez conscient.
Texte de Julie Francoeur, repimpé par Aurélie Subert-Chicot. Je pense que c'est important, Guillaume, de rappeler à nos auditeurs que tout est téléchargeable. Pour ce faire, on peut se rendre directement sur laplumedefeu.com, sur le CIBL1015.com, sur SoundCloud aussi si vous êtes abonné à SoundCloud.
Vous venez juste d'entendre la capsule Petit geste, grande révolution. La preuve que on peut faire des changements tout de suite dans nos vies. C'est l'objectif qu'on a avec notre émission Aube, c'est de démontrer des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Bon, là tout de suite je me tais, on repart la machine.
Excusez-moi, Monsieur Fruitier. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'emballer chaque raisin dans un plastique individuel?
Je te dirais, ça doit être pour comme Santé Canada là, qui nous oblige à tout emballer. Là.
Quoi? Santé Canada? J'ai jamais entendu parler de cette façon de faire. Je trouve ça un peu étrange, un peu comme pratique.
Ouais, mais c'est peut-être aussi juste parce que ça garde les choses plus frais, plus longtemps.
Ouais, c'est ça. Je peux comprendre que vous ayez des pertes. T'sais, genre, il y a des fruiteries à chaque coin de rue dans le quartier, mais là, je pense qu'il y a comme une sorte de limite, là. Chaque plastique, chaque raisin. Pourquoi est-ce que je devrais aussi acheter 3 poivrons emballés dans un petit cellophane, lui-même emballé dans un plus grand cellophane? Est-ce que, bon, je vis seul, personnellement, est-ce qu'un seul poivron, c'est largement suffisant pour ma semaine? Pourquoi est-ce que chaque piment individuel se vend 10,99 le livre, tandis que 3 piments spéciaux se vendent 3 pour 3 piastres? Je tente de comprendre votre logique, mais j'ai un petit peu discuté, faut que je vous avoue, là, que...
Ben, c'est... Le piment individuel, il est... spécial. C'est un piment qui provient de la Belgique.
Yeah, right. Comment? Un piment de la Belgique. Sincèrement, écoute, j'ai fait dernièrement l'autopsie de ma poubelle, puis votre plastique et styrofoam font partie un peu des derniers vestiges de mes résidus. Donc, sincèrement, je commence un peu à songer à fréquenter l'autre petite fruiterie un peu plus loin. Là.
Ouais, mais tu sais, vous savez, on peut sûrement essayer de trouver de s'arranger.
Genre,
à la caisse, je pourrais reprendre les styrofoams des clients.
OK. Intéressant. C'est un bon début. Puis, qu'est-ce qu'on fait avec le suremballage?
J'ai vu que mon fournisseur offrait de la pellicule compostable.
Bon, tu vois, c'est déjà quand même un bon début. J'imagine que vous allez aussi redonner vos invendus à un organisme de bienfaisance du quartier.
Oui, pourquoi pas?
Écoutez, la prochaine fois que je vous verrai, je vous apporterai un ou deux téléphones des organismes en question, justement, ça tombe bien, hein? J'ai fait une petite recherche dernièrement.
Au Québec, 13 millions de tonnes de déchets sont produites chaque année, soit un camion de 25 tonnes à la minute. La moitié de nos matières résiduelles se retrouvent dans les sites d'enfouissement, alors que nous pouvons réduire à la source notre production de déchets et réutiliser nos rebuts comme ressources. 93% de nos matières résiduelles peuvent être valorisées par le recyclage et le compostage.
Temps requis pour changer les choses auprès de mon fruitier. 2 minutes, 30 secondes.
En 1532, François Rabelais proposa sa vision personnelle de la cité utopique idéale en décrivant dans Gargantua l'abbaye de Thélème. Pas de gouvernement, car pense Rabelais, comment pourrait-on gouverner autrui quand on ne sait pas se gouverner soi-même? Sans gouvernement, les télémites agissent donc selon leur bon vouloir, avec pour devise « Fais ce que voudra ». Pour que l'utopie réussisse, les hôtes de l'abbaye sont triés sur le volet. N'y sont admis que des hommes et des femmes bien nés, libres d'esprit, instruits, vertueux, beaux et bien naturés. On y entre à 10 ans pour les femmes, à 12 ans pour les hommes. Dans la journée, chacun fait donc ce qu'il veut. Travaille si cela lui chante, et sinon se repose, boit, s'amuse, fait l'amour. Les horloges ont été supprimées, ce qui évite toute notion du temps qui passe. On se réveille à son gré, mange quand on a faim. L'agitation, la violence, les querelles sont bannies. Des domestiques et des artisans installés à l'extérieur de l'abbaye sont chargés des travaux pénibles. Rabelais décrit son utopie. L'établissement devra être construit en bord de Loire, dans la forêt de Port-Huault. Il comprendra 9332 chambres. Pas de mur d'enceinte car les murailles entretiennent la conspiration. Chaque bâtiment sera haut de 10 étages. Un tout à l'égout débouchera dans le fleuve. De nombreuses bibliothèques, un parc enrichi d'un labyrinthe et une fontaine au centre. Rabelais n'était pas dupe. Il savait que son abbaye idéale serait forcément détruite par la démagogie, les doctrines absurdes et la discorde, ou tout simplement par des broutilles. Mais il était convaincu que cela valait quand même la peine d'essayer.
Un texte tiré de l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber. BernardWerber.com.
En ce temps-là, on mettait des photographies géantes sur les murs. Les arrêts d'autobus, les camions, les taxis. L'œil humain n'avait jamais été autant sollicité de toute son histoire. Et on avait calculé qu'entre la naissance et l'âge de 18 ans, toute personne avait été exposée en moyenne à 350 000 publicités. Il avait fallu 2000 ans pour en arriver là.
Vous êtes toujours à l'écoute de Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde.
Plus tôt en début d'émission, nous avons entendu
la capsule Petit Geste Grande Révolution qui nous rappelle qu'on peut tous faire des changements dans nos vies.
Simplement le bonheur.
La fête des voisins, une entrevue avec Marie-Vincent dans sa ruelle.
Discussion dans un commerce.
L'utopie de Télème, notre chronique utopie de chaque semaine.
Un extrait du film 99 francs avec Jean Dujardin.
Si vous avez manqué la première partie, toutes nos émissions vous sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via laplumedefeu.com.
À venir dans la deuxième partie.
Le petit village sans âge, une création littéraire de Caroline Legault.
Les créatifs culturels.
Les nouvelles du front.
L'apostrophe de M. Tubercil.
Laissez entrer le vent.
Et pour l'instant,
bienvenue chez Coco.
Bonjour, ici Baha de chez Coco. Comment peux-je vous aider?
Bonjour, Baha. C'est que j'ai un problème avec ma facturation. J'ai pris deux trousses magiques durant mon voyage aux États-Unis puis en Europe, mais je me retrouve quand même avec une facture de 928 $, c'est-à-dire l'équivalent de mon prix de billet d'avion. OK, il va ajouter des détails et des verbes convaincants.
Je vous transfère.
Super.
Bonjour, ici Naroud de chez Coco. Comment puis-je vous aider?
Bonjour, Naroud. C'est que j'ai un problème avec ma facturation. J'ai pris deux trousses magiques durant mon voyage aux États-Unis et en Europe. J'ai fait tous mes suivis, c'est-à-dire 5 appels à Coco en 2 semaines, en fait. Et c'est d'autant plus troublant que c'est plus d'appels à Coco qu'à mes fils durant mon voyage. Mais je me retrouve quand même avec une facturation de 928 $. OK. Ben, je vais te donner d'autres détails. Brève argumentation, incluant des petites notions de marketing et d'autres verbes convaincants. Oui, Coco?
Ne quittez pas.
Attente de 45 minutes. Musique entraînante et libre de droit, interruption de communication. Asti, il me floche. Face de juron. Je rappelle.
Bonjour, ici Naoud de chez Coco. Je suis désolé d'avoir échappé la communication et de vous avoir fait attendre aussi longtemps. Je dois effectuer les calculs. Vous permettez que je vous place en attente?
Non. Je déteste ça. Pouvez-vous me rappeler quand les soustractions seront finies, s'il vous plaît?
Je préfère vous garder en ligne si j'ai des questions.
Ah, OK. Fait que c'était pas une question à choix de réponse. D'accord. C'est bon. Attente de 45 minutes. Pas de questions. Musique d'aliéné libre de droit. Hostie. Bis. On me raccroche la ligne sans putain de retour d'appel. J'ai écouté toutes les petites playlists. J'ai encore un bill de 928 $. Je chaud l'oreille. J'ai plus de ressources et de grossièreté. Et j'ai la conviction profonde que même si les jeunes qui bossent sont bébés smart, nos compagnies de télécom sont des enfoirés.
Je suis un petit village. Un petit village anonyme que l'on survole entre la visite de deux grandes villes, où l'on passe pour reprendre un peu son souffle après avoir gravi d'incontournables monuments. Mais je t'en prie, voyageur épuisé de tant d'émerveillement, je t'en prie, arrête-toi. Arrête-toi et sois sans gêne, car je ne serai point vexé si de mon doux nom tu ne te souviens pas, une fois ton chemin repris. Non, voyageur, je ne serai pas froissé si au détour de tes émois tu oublies mon identité, car sous mes airs de rien du tout, moi, le petit village incognito, je sais que mes charmes subtils resteront gravés à jamais dans ton esprit. Ainsi, par un rude après-midi d'hiver, tandis que tu crouleras sous le poids de ton travail, affaissé sur ta table de comptable tout en tremblant face à la froideur du vent du nord, lequel persistera par une fente de ta vieille fenêtre de bureau, tu te surprendras, voyageur, à rêvasser de ma verdure. Moi, le petit village discret, ennobli par sa nature simple et tranquille. Tu te surprendras, laissant en plan tes calculs, ainsi que la fenêtre givrée par l'austère boréal, à oublier tes autres souvenirs d'aventurier. Toutes ces grandes parures à l'effigie du génie humain, des miroirs de Versailles en passant par la grande muraille de Chine et les pyramides d'Égypte. Aucun d'eux ne te reviendra à l'esprit. Chaque fois, c'est pareil. Moi, le petit village sans nom, je vous reviens en mémoire et fais vagabonder votre cœur dans une plénitude sans fin. Vous vous revoyez là, assis dans mon unique parc, rempli d'odorantes fleurs sauvages face à mon petit lac. Vous vous revoyez là, en train de manger un sandwich, accueillant une douce brise de ce juillet impeccable, tandis que le soleil, complice, projette ses derniers rayons du jour sur les petites maisons jaunes, bleues et blanches, aux lucarnes invitantes. Sous mes grands arbres, vous écoutez les oiseaux qui se racontent leur journée et grignotent de ci, de là, les miettes de pain des touristes de passage. De tous ces voyageurs qui, une fois repus, repartiront à la conquête de Paris-Lumière, New York l'électrisante, Venise la plus romantique ou Barcelone la créative, et qui, de retour au bercail, auront des clichés plein la tête et les mains à montrer fièrement aux oncles, aux amis et aux parents. Mais seulement, et toujours moi, le petit village sans âge, je vous reviendrai en mémoire, juste au bon moment, pour donner grâce à vos jours d'hiver sans fin.
Un texte de Caroline Legault, tiré de son recueil « Tricot sacré et autres textiles pour passer l'hiver au chaud ».
Au tournant du 21e siècle, notre société fait face à plusieurs crises. Accroissement des inégalités, destruction de l'environnement, perte de confiance envers nos institutions. Si ces réalités ont leurs manifestations très actuelles, elles sont aussi intemporelles. Dans l'histoire du monde, on a souvent lutté. Face à la violence, l'oppression et la destruction, des femmes et des hommes se sont levés. Ils et elles ont opposé à la destruction la créativité et la beauté. Face à la haine et la méfiance, ils ont proposé la paix. Face à un monde où tout est noir ou blanc, elles ont proposé des visions nuancées qui reflétaient toute la gamme de couleurs. Surtout, face au fatalisme, ils et elles ont choisi la lutte. Ici Guillaume Lam et voici les nouvelles du front. À Québec, une clinique de santé de proximité voit le jour. Sans médecins, la coopérative SAPSA se consacre aux soins à échelle humaine. Ceux-ci sont offerts par une équipe de professionnels de la santé, composée principalement d'infirmières. Depuis toujours, les communautés humaines ont cherché à prendre soin des leurs. En effet, des travaux d'archéologie retracent des squelettes d'individus présentant des malformations qui auraient vécu jusqu'à 40 ans, ce qui signifie qu'ils ont été pris en charge par leur père. Déjà en 1968, la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles voyait le jour afin d'offrir des soins de santé dans ce quartier pauvre de Montréal. Les citoyens s'étaient alors mobilisés pour prendre soin les uns des autres. Ce modèle inspirera le gouvernement dans la création des CLSC, mais la clinique de Pointe-Saint-Charles restera, et reste toujours, indépendante et gérée par les citoyens du quartier. La clinique SAPSA démontre que la lutte continue pour prendre soin des nôtres. La lutte pour l'égalité des citoyens se poursuit, elle aussi, alors qu'on se transporte en Espagne. Dès les années 30, tel que le rapportait George Orwell dans son hommage à la Catalogne, les habitants de la région d'Aragon ont réussi à faire vivre, le temps d'un instant, une communauté où la conscience de classe et le refus d'avoir confiance dans le capitalisme fussent des attitudes plus courantes que leur contraire. Les luttes citoyennes espagnoles se poursuivent toujours, alors que le mouvement des Indignados a démontré la force des citoyens d'Espagne. Aujourd'hui, le parti Podemos s'impose dans la politique du pays. Ce dernier propose une nouvelle approche, basée sur la participation citoyenne la plus large possible à tous les niveaux, des circulados, des cercles où les citoyens discutent de la politique. Ils se fondent aussi sur la démocratie liquide, qui souhaite se rapprocher le plus possible de la démocratie directe. Les luttes sont tout aussi nombreuses sur le front de l'environnement, où s'opposent destructeurs et protecteurs de beauté. On n'a qu'à penser à l'homme qui plantait des arbres de Frédéric Bach. C'est sur ces fronts qu'on perçoit le plus de mouvements aujourd'hui. Énergie renouvelable, exploitation forestière durable, recyclage, mais aussi exploitation des sables bitumineux, pêche abusive, smog et catastrophes nucléaires. La lutte continue d'être rude alors que se profile à l'horizon la conférence de Paris du 30 novembre au 15 décembre 2015. Les protecteurs de la beauté ont signé de belles victoires dans les dernières années. Qu'on pense, ici au Québec, à la lutte contre les gaz de schiste, par exemple. Mais les gains restent fragiles et les positions difficiles à tenir. Pourtant, ils étaient encore et toujours des milliers à marcher ensemble pour le jour de la Terre. On rapporte aussi que les humains continuent à faire de l'art et à embellir le monde. D'autres auraient, quant à eux, choisi de planter des fleurs et de faire des jardins. Dans les tranchées, certains ont même pris des choix cohérents avec leurs valeurs. Des parents racontent des histoires à leurs enfants. Un ami offre à un autre de l'écouter alors qu'il en a besoin. Et des voisins s'entraident. malgré l'adversité, plusieurs continuent aussi de faire l'amour et non la guerre. Pour Aube, c'était Guillaume Lam avec les Nouvelles du Front.
Après une vaste étude menée entre 86 et 99 auprès de plus de 100 000 personnes, le sociologue Paul Ray et la psychologue Sherry Anderson affirment dans l'émergence des créatifs culturels qu'un quart environ des citoyens états-uniens vivraient d'ores et déjà dans un système de valeurs et de comportements complètement nouveau, ouvert à l'écologie, à la solidarité, aux valeurs féminines et à l'éveil intérieur. Catégoriquement nié par les politiques et les médias, ce mouvement marquerait le début d'une renaissance aussi importante que celle qui lança le modernisme il y a 500 ans. Valeur numéro 1, vivre sa vie comme un engagement responsable et cohérent vis-à-vis de soi-même, des autres et de la biosphère. Obstacle numéro 1, interrogé sur le nombre de gens qui, à leur avis, partagent leurs valeurs et leurs comportements, l'énorme majorité des créatifs culturels se sous-estiment dramatiquement. Ils se croient en moyenne 5 % de la population alors qu'ils seraient 24 % selon les sondages cités par l'enquête. Mais qui sont-elles? 60 % sont des femmes et la part des 18-24 ans augmente chaque année. Preuve pour les animateurs de l'enquête qu'il s'agit d'un nouveau courant fondamental. Sociologiquement, on trouve les créatifs culturels dans toutes les couches et tous les âges de la population, même s'ils sont incontestablement un peu plus cultivés, riches et urbains que la moyenne. Démographiquement, ils se répartissent en deux populations d'environ 23 millions d'adultes chacun. Un noyau central dit « avancé », préoccupé à la fois de justice sociale, d'engagement écologique et de développement psycho-spirituel, et une périphérie dite « écologiste » qui aurait tendance à ne faire que lentement et avec prudence le lien entre l'engagement social et la vie intérieure ou entre l'écologie et une nouvelle forme de spiritualité. Traditionnellement, ils estiment que l'évolution ne s'est jamais effectuée en faisant table rase du passé, mais en intégrant intelligence combinée des stades précédents. L'idée de métissage culturel à travers l'espace et le temps nous reliant aux autres sociétés humaines, notamment aux cultures primordiales, vivant encore en symbiose forte avec la nature, leur est particulièrement chère. Les créatifs culturels sont des gens qui tentent de mettre en application 4 types de valeurs. En premier lieu, l'implication personnelle dans la société par des engagements solidaires, locaux et globaux, immédiats et à long terme. En deuxième lieu, on parle surtout d'une vision féminine des relations et des choses. En troisième lieu, l'intégration d'écologie, de l'alimentation bio, des méthodes naturelles de santé, des médecines alternatives. Et en quatrième lieu, importance du développement personnel, de l'introspection et des nouvelles spiritualités. Psychologiquement, les créatifs culturels ont un point commun important. Ils ne supportent plus d'être divisés, coupés, en contradiction avec eux-mêmes. Leurs mots-clés sont notamment cohérence, congruence, interaction et synergie. Que l'on puisse prôner le respect des équilibres écologiques et ne pas en tenir compte dans sa propre vie quotidienne leur est devenu insupportable. De même, croire sincèrement que seuls des comportements plus solidaires pourraient sortir l'humanité de la catastrophe et ne pas s'engager soi-même dans ce sens les horripile. Quant à prêcher l'éveil d'une vie intérieure essentielle et baratiner sur la spiritualité tout en continuant à se comporter au travail, dans la cité, chez soi, comme les générations précédentes, cela leur paraît grotesque. Dire ce que l'on fait, faire ce que l'on dit, telle est leur devise, et l'enquête de Ray et Anderson montre en particulier dans son suivi à long terme qu'il ne s'agit pas là de vains mots. Comme si les idéaux des années 60 et 70 avaient fait un long chemin souterrain pour atteindre aujourd'hui non pas quelques dizaines de milliers de personnes, de marginaux, mais plutôt des millions de citoyens intégrés. Pourtant, s'il a fallu 20 ans pour que les mouvements contre la guerre deviennent enfin des mouvements pour la paix ou les mouvements anti-mec des mouvements pour les relations hommes-femmes harmonieuses, c'est que le catalyseur de ces métamorphoses est très souvent venu de la spiritualité et de la psychologie humaniste, dont l'intégration ne peut se faire que lentement. Quand on met côte à côte la popularité croissante d'un mouvement et la lenteur de son cycle d'apprentissage, il est facile de s'arrêter uniquement aux excès de la vulgarisation, la spiritualité syncrétique et la psychologie de comptoir dont certains médias adorent se gausser. Mais confondre ainsi la surface du mouvement et sa substance profonde est une erreur. Si l'on veut vraiment comprendre ce qui se passe, il est nécessaire de bien faire la différence entre la masse croissante de ceux qui sont à la recherche de nouvelles sensations, d'un parfum nouveau pour leur vie ou de quelque chose d'authentique d'une part et d'autre part les adeptes de longue date qui ont appris petit à petit à vivre une vie authentique, à profondément transformer leur existence en fonction de ce qu'ils ont appris. Les deux ensembles ont grandi durant ces 40 dernières années, mais ce sont surtout les débutants qui sont les plus visibles avec leur population en perpétuelle croissance. 24% des citoyens états-uniens ne fonctionneraient plus désormais selon le modèle de l'American Way of Life. Cette nouvelle considérable mériterait au minimum qu'on l'examine, qu'on la vérifie et surtout qu'on la critique. Elle est passée ici inaperçue, corroborant l'une des informations de fond que cette enquête apporte, imbibée de la conviction que le modernisme est la normalité, les médias et les politiciens n'ont rien capté du phénomène. C'est ce qui arrive quand on passe un type de culture résolument nouveau. L'ancienne culture dominante non seulement ne comprend pas, mais ne voit rien. Particulièrement surprenante est l'extrême lucidité des créatifs culturels vis-à-vis des médias, des leurs de la pub et de la société de consommation et des manipulations des grands groupes économiques. Et maintenant, trois possibilités. Le modernisme continue à mondialiser ses visions sans rencontrer d'alternatives innovantes, fortes, et le monde plongera dans une confrontation chaotique. Deuxième possibilité, les créatifs culturels parviennent à s'ériger, sinon en force politique, du moins en interlocuteurs institutionnels de poids, à la manière de ce que firent jadis les syndicats. Et tous les espoirs sont permis de voir émerger une civilisation nouvelle, aussi différente du modernisme que celui-ci le fut du Moyen-Âge. Troisième possibilité, les créatifs culturels demeurent dans l'ombre, mais réussissent à féconder suffisamment d'instances culturelles, économiques, politiques et sociales pour qu'une part de leurs valeurs et visions soient reconnues, et on entre alors dans une phase de transition plus lente. Le fait que beaucoup de nouvelles valeurs et attitudes, notamment contre le racisme, ou pour le respect des femmes, ou encore en faveur de l'environnement, ont peu à peu fini par atteindre la société entière en seulement une génération. Ray et Anderson imaginent toutes sortes de concrétisations possibles de l'univers créatif culturel, des écoles, des universités, ou encore des centres ouverts aux gamins de rue, des réseaux connectés à la planète entière. Une nouvelle grande utopie en train de naître? Qui sait? À lire, L'émergence des créatifs culturels de Ray et Anderson aux éditions Yves Michel, et vous pouvez consulter aussi le site culturalcreative.org.
C'est l'amour. Et maman, où sais-tu que je m'en aille? C'est ici que je suis née.
Au moment de la chute du mur de Berlin, Frances Fukuyama annonçait la fin de l'histoire, comme si le monde allait plus jamais changer. Nous, aujourd'hui, on est en 2015. On s'en rend bien compte que le monde change. Vous venez juste d'entendre la capsule sur les créatifs culturels, une étude qui a été faite dans les années 90, qui annonce déjà un mouvement de masse, des nouvelles valeurs qui sont adoptées par des nouvelles personnes. Mais aujourd'hui, on est en 2015, justement. Où ils sont, ces gens-là? Ah, peut-être qu'ils sont dans notre émission. Je vais vous laisser écouter.
Voyez-vous, n'être livré à rien dans un monde encombré, c'est périr ou souffrir de ne jamais pouvoir être complètement. Je me fis cette remarque tandis que le jeune homme assis à mes pieds cirait efficacement dans la rue gorgée de passants mes bottines en cuir de vache. L'oisif est rattaché au monde impossible, à une dimension improbable qui nie le réel. Réel dans lequel s'ancrent toutes les populations de la Terre, du moins évidemment les plus civilisées d'entre elles. Car, ne parlons pas de sel, le membre à l'air qui batifole dans l'insouciance la plus totale, près de ressources alors autant précieuses que des nappes phréatiques d'eau pure ou des filons de métaux précieux, cachés dans leurs grottes sacrées. Ils se voilent la face sur le vrai monde, derrière leurs divinités de pacotille et leurs rituels païens dépenaillés et inutiles. Mais sommes-nous semblables ? Je ne puis sortir sans chaussures, ai-je pour autant sacralisé mes pieds au point de leur donner une armure splendide et d'en vénérer l'aspect ? Un jeune disciple en frôle la surface qu'il fait briller à l'aune d'un nouveau jour, et moi, le journal à la main et l'air malin, je parcours une série d'informations utiles. Utiles contrairement à l'oisif ? Je me targue d'avoir eu, tout au long de ma vie, l'instinct des raisonnements foireux, et des pensées savonnées aussi originales qu'une planche à pain. Ceci grâce à ma moustache. Elle exécute, par je ne sais quel miracle de la science, une danse frétillante le long de mes pommettes, lorsqu'elle est en présence d'une pensée splendidement superficielle. Ma moustache aime à vivre dans un monde où le mot est profond et l'esprit aiguisé. Je m'étonne encore de l'avoir à cette époque. Bref, au moment où j'eus cette pensée, ma moustache toqua contre mon crâne. Utile, qu'est-ce que l'utilité ? Un oisif n'est-il point au contraire l'élément le plus important d'une société de travail ? Il en est l'antithèse approfondie, le contrepoint nécessaire. Et puis, le journal est-il utile ? S'épanouit-il chaque jour en me démontant les dernières poches de fantaisie qui riment de moins en moins dans le contrefort restreint de mon imaginaire ? L'oisif crée, le journal décrète. Pour autant que j'y pense, les deux sont essentiels. Le garçon plaça la main face à ma figure et j'y jetai quelques pièces, les moins pesantes, et ballant comme un dandy, je pris le chemin de mon chez-moi habituel. L'enfant était sans doute moins important que moi à cet instant. Mais finalement, quand chacun aura fini de jouer son rôle, la seule vraie position sera celle de l'esprit. Et l'esprit n'a pas de grade, simplement des horizons.
La déception ou le deuil face au diagnostic ou à la différence de son enfant vient beaucoup de ce que l'on a osé rêver sans lui, pour lui. En amont de sa naissance et tous les jours qui nous lient à son petit soleil, on lui a fait un tracé lumineux sur un sentier qu'on présume idéal. Avec ce que l'on porte d'histoire, d'espoir et d'échec depuis notre propre genèse, on souhaite, secrètement ou de manière plus exubérante pour certains, qu'il torche l'espèce au grand complet et que sa vie soit douce, sans heurts ni fracas. Mais parfois, les enfants auxquels on offre le souffle ont une autre proposition. Ils débarquent dans nos vies avec leurs petites valises. Ils sont, font, rêvent, affirment, confrontent, perturbent. Ils troublent le pédigree de l'espèce et viennent foutre une baffe à l'ego humain. On a alors le choix de nos réactions. La déception, la résignation, la colère, le refus. Ou encore, laisser entrer le vent. Assumer de vivre pour toujours avec l'incertitude et d'aimer. D'aimer Aziz. Si on accepte, on apprend alors à aimer sans se projeter. Et malgré nous, la magie fait sa job de paillette. Et on évolue les pattes au présent. Le vulnérable affirmé et on découvre une route que seul ce petit improbable s'est tracé.
Texte et narration, Annick Daigneault. Thank you.
C'est ce qui conclut l'épisode X de Aube.
Dans le prochain épisode, Aube reprend la route avec son 13e épisode sur la transmission du savoir, la communication et les médias.
Si vous vous sentez inspiré par notre émission, nous vous invitons à participer à celle-ci car chaque émission est le fruit des collaborateurs du moment.
Si vous avez deux minutes pour nous offrir vos commentaires, il nous ferait grand plaisir de vous lire sur laplumedefeu.com, sur Facebook ou via Twitter.
Dans cette émission, vous avez entendu les œuvres de Guillaume Lam, Philippe Laramé, Aurélie Subercicot, Annick Daigneault, Caroline Legault et Jean-Baptiste Gardaret.
À la réalisation, au montage et à la mise en onde, Philippe Laramé et Guillaume Lam.